Chapitre 15. Nous sommes assis dans le coin le plus calme du café Arnold. Le soir tombe sur Central Park. Des dizaines de businessmen cravatés et de vaniteux viennent vider des bières, se montrer et se compter. Andy boit une gorgée de sa Guinness et se rapproche de moi pour que je l'entende dans le brouhaha. « Et si cette vieille pique de Marie Swan avait raison » s'interroge-t-elle. « Et si l'assassin du Petit Prince n'était pas l'un des six habitants des six planètes, pas plus que la rose, le renard ou le serpent, mais celui qu'aucun lecteur ne soupçonnait, le narrateur, donc l'aviateur, donc Saint-Exupéry, encore plus fort qu'Agatha Christie. Le narrateur est le tueur, et comme c'est un récit d'autofiction, le tueur est aussi l'auteur. Il tue son double enfant à qui il vient de donner vie. Ça se tient. Ça se tient vraiment bien. » Andy note en énorme, sur une feuille blanche de son écriture ronde. « C'est l'aviateur qui a tué le petit prince. » Je remarque la fine moustache de mousse sur les lèvres de la jeune détective et j'hésite à y passer mon doigt pour l'essuyer. Je me retiens et observe la décoration vintage du café. Évidemment, Andy ne m'a pas emmené par hasard dans ce bar, devenu la cantine des exilés français pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément ici que l'éditeur Eugène Reynal et sa femme ont commandé à Saint-Exupéry un conte pour enfants. Je bois à mon tour une rasade de bière noire. Je commence à savoir qu'il est impossible d'arrêter Andy quand elle poursuit une idée. On ne devait pas enquêter sur le Club 612. Un vieux jukebox joue la vie en rose. Andy continue comme si elle ne m'avait pas entendu. Même si elle m'agace, cette vieille pie toute flétrie, c'est elle qui a raison. Le petit prince et l'aviateur ne font qu'un. Saint-Ex se parle à lui-même dans le silence du désert. Tenez, une preuve de plus. Une fois en Algérie, Saint-Ex va écrire de superbes lettres à une inconnue. Une jeune infirmière croisée entre Oran et Alger. Encore une nouvelle maîtresse? Non, apparemment, celle-ci ne lui a pas cédé. Pour la convaincre, Saint-Ex signera ses lettres enflammées de visage du petit prince. Un petit prince qu'il fait parler à sa place. Le petit prince, c'est bien lui. Je regarde ma montre. Je dois appeler chez moi. J'ai du mal à calculer le décalage horaire, mais je sais que Véronique doit s'inquiéter. Andy n'a pas l'air pressé. L'enfance de Saint-Exupéry, c'est la clé. On ne doit surtout pas oublier que pendant 50 ans, avant qu'on ne retrouve cette fichue gourmette au large de l'île de Rio, l'hypothèse admise par tous était que Saint-Ex s'était un peu écarté de son plan de vol pour passer au-dessus de la maison de sa mère, pour survoler une dernière fois son enfance. Saluer une dernière fois Pique la Lune, son surnom quand il était petit garçon, avant de disparaître. Les plus beaux souvenirs de Saint-Ex se trouvaient à Aguet. C'est là qu'habitait sa sœur Didi. C'est là qu'il s'est marié avec Consuelo, dans le château qui sera rasé par les Allemands. Ces traces de son passé furent rayées de la surface de la terre, bombardées par des adultes en guerre. Encore un hasard? Je vide ma Guinness. J'hésite à me lever. Je dois téléphoner. Mais Andy se penche sur son cartable et en extirpe une série de notes manuscrites. Voilà, c'est écrit ici. Vous allez comprendre, Neven. Je n'ai pas le temps de lui dire que j'ai déjà compris. Saint-Ex a écrit ses plus belles lettres à sa mère, des lettres terriblement pessimistes, où il parlait et reparlait toujours de son enfance. Avant même que je réponde, sa petite voix fluette déchiffre les mots de Saint-Ex. La seule fontaine rafraîchissante, je la trouve dans certains souvenirs d'enfance. Ce monde des jeux que nous inventions me semblera toujours plus désespérément vrai que l'autre. Je ne suis pas sûr d'avoir vécu depuis. Alors, vous voyez? Saint-Ex est bien un enfant perdu parmi les grandes personnes. Savez-vous que le petit prince apparaît pour la première fois dans « Terre des hommes » en 1939 sous les traits d'un enfant endormi dans les bras de ses parents, des ouvriers polonais qui voyagent avec Saint-Ex dans un train de troisième classe? Et il s'émeut de ce petit prince de légende, de ce Mozart enfant qui sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. L'enfance assassinée. Encore une fois. Neven, savez-vous qui était le plus grand fan du petit prince? Vous, ne soyez pas bête. Quelqu'un de connu ici, aux États-Unis, dans les années qui ont suivi la sortie du livre. Un éternel adolescent, foudroyé lui aussi avant l'âge adulte. Elle vide sa Guinness d'une traite. James Dean! James Dean était fan absolu et voulait incarner le petit prince. Il avait 12 ans à la sortie du livre et va mourir à 24 avant d'avoir réalisé son rêve. Le petit prince, c'est le syndrome de Peter Pan. Le Neverland de Michael Jackson. À l'enterrement du chanteur, ses amis en ont lu un extrait. Andy n'a toujours pas l'air pressé. Je redoute qu'elle commande une autre bière. J'essaye de poser une question intelligente à laquelle elle puisse répondre rapidement. Saint-Exupéry n'a jamais eu d'enfant? Non, mais il en désirait. Il en parlait, du moins dans certaines lettres. Ok, je résume donc. On tient le mobile. Un meurtre symbolique. Saint-Exupéry a tué l'enfant en lui. Andy réfléchit. Silencieusement d'abord, puis à voix haute ensuite. Il rend son manuscrit du Petit Prince au moment où il repart combattre pour l'honneur de la France. Il part sans attendre sa parution, comme s'il avait fait son choix. Abandonner l'enfant et accepter l'absurdité du monde adulte. La pire des absurdités. Une guerre mondialisée. Andy fait claquer sa pinte vide contre la table. C'est parfaitement logique. Le petit prince meurt pour laisser survivre l'aviateur, seul face à son devoir de grande personne. Le premier réflexe du petit prince, avant de se faire mordre par le serpent, est de protéger Saint-Ex. Les serpents n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Ce qui sous-entend, l'un doit mourir pour libérer l'autre. Je tue le petit prince en moi, et je pars à la guerre. Je l'écoute, ému. J'observe dans le café Arnold les dizaines de businessmen cravatés et de vaniteux qui ont eux aussi tué les petits princes en eux pour partir à la guerre. L'ai-je tué moi aussi? L'ai-je seulement? Andy se lève en me bousculant, faisant valser mes réflexions. Allez, oust, dodo. Demain, on se lève tôt. Mais on a rendez-vous avec Marie Swan que dans l'après-midi. Une ruse de la vieille dame. À la fin de la balade dans Manhattan, quand nous avons commencé à la questionner sur Okodolo, à lui parler des menaces, Marie Swan nous a répondu qu'elle était fatiguée, mais que si l'on repassait demain après le déjeuner, elle nous dirait tout sur le Club 612, à condition de la promener. J'ai piloté toute la nuit, je vais recommencer demain après-midi. Je mérite bien ma grasse matinée. On se lève tôt, répète Andy. Obligé. Demain matin, on va au musée.